Cours F2F. Ce cours est en 8 parties. Tout d'abord, des exemples de filtres numériques, les propriétés du produit de convolution, la transformée en Z qui est bien adaptée pour l'étude des filtres numériques, la définition et les propriétés des filtres numériques, la fonction de transfert, un critère de stabilité qui s'appuie de la même façon que pour les filtres analogiques sur la position des pôles. La définition d'un filtre à phase linéaire, une condition, et enfin un schéma général des relations entre les différentes équations pour l'étude des filtres. Transparent 2. En numérique, les filtres numériques sont en général effectués par des calculs, donc la multiplication par un coefficient, c'est en général un calculateur. Le fait d'introduire un retard, c'est un registre à décalage. Le fait de faire l'addition entre deux signaux, c'est en général un composant du microprocesseur qui fait une addition. Toutes ces multiplications, ces additions et même ces registres à décalage sont soumis à des approximations numériques et induisent éventuellement un comportement différent du filtre numérique par rapport à la théorie. Transparent 3. On s'intéresse ici aux points qui sont en vert. Le signal en entrée. Donc c'est une succession de points aléatoires et on lui applique trois filtres différents. Le premier, la réponse impulsionnelle est égale à delta n-1. Cela représente un retard et la sortie que l'on observe en haut à droite est égale à l'entrée, à ceci près qu'elle est retardée de deux pas de temps. Enfin d'un pas de temps, en réalité. Le deuxième filtre est la somme de deux Dirac. C'est Hn égale delta n-1 plus delta n-2 fois 1,5. Hein, donc delta n-1 divisé par 2 plus delta n-2 divisé par 2. Et la sortie est égale à l'entrée, mais elle est un petit peu lissée. Le troisième filtre, donc qui se trouve en bas, la réponse impulsionnelle est égale à 1 quart de delta n-1 plus 1 quart de delta n-2 plus 1 quart de delta n-3 plus 1 quart de delta n-4. Et pour le coup, on peut observer que la sortie est réellement plus lissée que l'entrée. On pourrait se dire que le signal à temps discret est une approximation d'un signal à temps continu, que le filtre numérique est lui aussi une approximation d'un filtre analogique et que par conséquent la sortie devrait être une approximation de la sortie du filtre analogique lorsqu'on aurait mis en entrée un signal à temps continu. En réalité, il faut prendre quelques précautions. C'est un petit peu vrai, mais il faut quand même prendre quelques précautions pour que cette approximation reste valable. Transparent 4. Les propriétés du produit de convolution. Donc la fréquence d'échantillonnage et la périodicité sont conservées, c'est-à-dire que lorsqu'un signal en entrée est n périodique, le signal en sortie est n périodique. Lorsqu'un signal entrée a été échantillonné à la fréquence d'échantillonnage FE, le signal en sortie est aussi échantillonné à la même fréquence d'échantillonnage FE. Le filtre numérique, tout comme le filtre analogique, est invariant par translation dans le temps, c'est-à-dire que si on retarde le signal en entrée, alors que la sortie est retardée d'autant. Le filtre numérique est linéaire, c'est-à-dire que si on amplifie l'entrée, alors la sortie est amplifiée du même facteur A. Si en entrée on met la somme de deux signaux, alors en sortie on aura la somme des sorties qu'on aurait eues si on avait mis une des deux entrées à l'intérieur du filtre. La relation en temps définie par un produit de convolution est équivalente à une relation dans le domaine fréquentiel, définie par un simple produit. En effet, la transformée de Fourier à temps discret de la sortie est égale à la réponse fréquentielle que multiplie la transformée de Fourier à temps discret de l'entrée. La réponse fréquentielle est définie par la transformée de Fourier à temps discret de la réponse impulsionnelle. La composition de deux filtres de réponse impulsionnelle H2n et H1n est équivalente à un seul filtre de réponse impulsionnelle H2n convolué avec H1n. La moyenne de la sortie est égale à la réponse fréquentielle dans la fréquence nulle que multiplie la moyenne de l'entrée. En fait, la réponse fréquentielle en la fréquence nulle est égale à la somme des termes de la réponse impulsionnelle sur de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Si en entrée on met une exponentielle complexe depuis moins l'infini des temps jusqu'à plus l'infini, alors en sortie on a cette même exponentielle complexe mais multipliée par un autre complexe qui est égal à la réponse fréquentielle en la fréquence F0. La relation temps entrée-sortie, définie par un produit de convolution, peut aussi s'exprimer à l'aide des transformées en Z. En effet, la transformée en Z de la sortie est égale à la fonction de transfert que multiplie la transformée en Z de l'entrée. Et cette fonction de transfert, H2Z, est égale à la transformée en Z de la réponse impulsionnelle. Donc nous allons maintenant voir ce qu'est la transformée en Z dans le transparent 5. Elle s'adresse que à des signaux causaux, tout comme la transformée de Laplace ne s'adressait que à des signaux causaux. En haut à gauche, c'est un exemple de signal causal. Alors tous les signaux causaux sont nuls pour les instants strictement négatifs. C'est la définition d'un signal causal. Et ce signal causal en particulier, Sn égale exponentielle de moins 1 nte, il vaut 1 en n égale à 0 et ensuite il décroît exponentiellement jusqu'à atteindre, à s'approcher de 0. La partie gauche du transparent montre des graphiques de la transformée en Z et la partie droite du transparent montre la façon avec laquelle on peut lire sur la transformée en Z la transformée de Fourier à temps discrète. Voilà. La définition de la transformée en Z est donnée par la formule en haut, plutôt vers la droite, qui est égale à S2Z, somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de Sn dxn Z exponentielle moins n. On note que les seuls indices utilisés sont de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini parce que la transformée en Z ne s'adresse que à des signaux causaux. Le résultat S2Z est une fonction qui dépend d'un complexe Z. C'est-à-dire qu'il est a priori défini sur l'ensemble des valeurs complexes. En réalité, la transformée en Z n'a de sens a priori que pour module de Z strictement supérieur à 1. Parfois, on peut néanmoins représenter, dessiner et calculer la transformée en Z au-delà du domaine de module de Z strictement supérieur à 1 à partir du moment où l'écriture a un sens au-delà de ce domaine-là. Dans le cas particulier du signal exponentiellement décroissant et causal qui nous intéresse, la transformée en z est égale à 1 sur 1 moins exponentielle de moins ate fois z moins 1. Elle s'exprime bien comme un polynôme de z au numérateur divisé par un polynôme de z au dénominateur. Et elle a donc bien un pôle et un zéro. Un pôle qui est une racine du polynôme situé au dénominateur et le 0 qui est une racine du polynôme situé au numérateur, c'est-à-dire en haut de la fraction. Graphiquement, la surface est donc relativement plane avec un pic au niveau du pôle et un trou au niveau du 0. La raison pour laquelle il y a un pic et un pôle, c'est qu'en fait on a utilisé ici une échelle logarithmique pour représenter la surface. Donc la surface, c'est le module de la fonction de transfert en fonction des différentes valeurs du module de z. Mais rappelons qu'a priori, la transformée en z n'est normalement pas définie pour tous les z, mais seulement pour ceux dont le module de z est strictement supérieur à 1. Plus bas, c'est la phase, c'est-à-dire l'argument de s de z en fonction de z. Et la même chose s'applique, c'est-à-dire que normalement, on ne la représente que pour module de z strictement supérieur à 1. Donc en haut à droite, c'est la transformée à temps discrète qui est rappelée, la définition de la transformée à temps discrète. C'est la somme de n égale à moins l'infini jusqu'à plus l'infini de Sn dxn exponentielle de moins j de pi f nte. Et on s'aperçoit que si on remplace z dans la transformée en z par exponentielle de j de pi fte et qu'on l'applique à un signal qui est causal, on a bien une transformée de Fourier discrète qui peut se déduire de la transformée en Z. Et le fait de remplacer z par exponentielle de j de pi fte revient à parcourir le disque du cercle unité pour chaque valeur de la fréquence correspond un point du cercle unité. AF égale 0 correspond à z égale à 1. AF égale à FE sur 4 correspond à z égale à j, c'est-à-dire la racine carrée de moins 1. AZ égale à FE sur 2 correspond à Z égale à moins 1. Donc moins 1 correspond à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. AZ à F égale à 3FE sur 2 ou moins FE sur 2, Z égale à moins J. Et à F égale à FE ou moins FE, Z égale à moins 1, à 1, c'est-à-dire qu'on est retourné au départ. Donc la courbe en rouge sur les deux graphes de droite représente le disque, le cercle unité, le long duquel Z parcourt le cercle unité pour différentes valeurs de la fréquence. Et la courbe en bleu représente en haut la valeur du module en fonction de la position du complexe sur le cercle unité. Et la valeur en dessous représente la valeur de la phase. La courbe en bleu en dessous représente la valeur de la phase en fonction de la position de Z. Transparence 6, ce sont les propriétés de la transformée en Z qui sont a priori à peu près similaire à celle de la transformée de Fourier à temps discret, puisque la substitution est possible. Je rappelle dans le transparent 5 que la substitution z égale exponentielle j de pi fte n'a de sens que si la transformée en z est effectivement définie, ou du moins que son écriture est effectivement définie sur le cercle unité. Ce n'est pas forcément valable, en particulier ce n'est pas valable pour les signaux qui, en l'infini, ne sont pas, ne tendent pas vers 0. Pour le transparent 6, donc puisqu'on considère des signaux qui sont a priori réels, la transformée en z a la même propriété de parité, à savoir que x de z est égal au conjugué de x de z bar. Alors l'expression conjuguée, qui est notée par une barre au-dessus de la lettre, signifie que la partie réelle ne change pas de signe, mais que la partie imaginaire change de signe. On a donc que le module de la transformée en z est égal au module de la transformée en z de l'expression conjuguée et que la phase de la transformée en z est égale à l'opposé de la phase de l'expression conjuguée. Alors graphiquement, l'expression, le fait de prendre le complexe conjugué signifie qu'on fait une symétrie par rapport à l'axe des réels sur le plan complexe. Si on calcule la transformée en z d'un signal retardé de d pas de temps, alors le module de la transformée en z, non, alors la transformée en z égale à z puissance moins d de la transformée en z avant le retard. Si on calcule le transformé en z d'exponentielle de j de pi f0 nte fois le signal, alors c'est égal à la transformée en z, mais cette fois-ci, non plus en l'appliquant au complexe z, mais au complexe z multiplié par exponentielle de moins j de pi fte. C'est l'équivalent du décalage fréquentiel pour la transformée de Fourier à temps discrète. La transformée en z est linéaire, savoir que lorsqu'on multiplie par un facteur a le signal, alors la transformée en z est multipliée par a. Lorsqu'on ajoute deux signaux, la transformée en z s'ajoute. La transformée en z de xn plus yn égale transformée en z de xn plus transformée en z de yn. Dilater un signal à temps discret signifie en réalité modifier la période d'échantillonnage et modifier dans le sens inverse la fréquence d'échantillonnage. Si la période d'échantillonnage est multipliée par a, la fréquence d'échantillonnage est divisée par a. Cependant, les valeurs prises par le signal avant et après ne changent pas, et par suite les transformées en z ne changent pas. Cependant, la signification du complexe z change, en particulier si on voulait retrouver la transformée de Fourier à temps discrète à partir de la transformée en z, ce que l'on trouverait comme fréquence changerait, puisque la fréquence d'échantillonnage a changé, et la période d'échantillonnage aussi, et qu'elle intervient dans la substitution de z égale exponentielle j de pi fte. On a aussi la propriété sur les sommes cumulées et sur les différences entre termes successifs. La transformée en z de la suite des sommes partielles du signal Sn est égale à 1 sur 1 moins z moins 1 de la transformer en Z du signal temps discret. De même, la transformée en Z de la suite des différences entre thèmes successifs est égale à 1 moins Z moins 1 que multiplie la transformée en Z de S2Z. La transformée en Z d'un produit de convolution de Xn par Yn est égale au produit de la transformée en Z de Xn par la transformée en Z de Yn. La transformée en Z d'un Dirac est égale à 1. On avait le même résultat avec la transformée de Fourier à temps discrète. La transformée en Z de d'un signal qui vaut 1 entre l'instant 0 jusqu'à l'instant n-1 vaut 1 moins Z moins N sur 1 moins Z moins 1. En fait, si on remplaçait Z par exponentielle de J de pi FTE, on retrouverait le quotient de sinus. La transformée en Z d'un cosinus tronqué sur les instants 0 jusqu'à grand N-1 peut se calculer en utilisant la relation sur le décalage fréquentiel, de même que pour le sinus tronqué. Transparent 7. Sur le filtrage numérique, on définit la réponse impulsionnelle comme étant la sortie du filtre lorsque l'entrée est égale à un Dirac. L'écriture, la relation entrée-sortie du filtre s'écrit sous la forme d'un produit de convolution entre la réponse impulsionnelle et l'entrée. Finalement, Yn égale Hn convolué avec Un, où Hn est la réponse impulsionnelle du filtre. On peut définir aussi la réponse indicielle comme étant la réponse à un échelon. En entrée, on met un échelon, c'est-à-dire la suite qui vaut 1 pour tous les n positif, qui vaut 0 pour tous les n strictement négatifs. Et dans ce cas-là, la sortie du filtre, c'est la réponse indicielle. La réponse harmonique ou réponse fréquentielle, lorsque en entrée on met une exponentielle complexe, exponentielle de j de pi f0 nte, avec n qui peut être n'importe quel entier de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, alors la sortie du filtre est aussi une exponentielle de j de pi f0 nte, mais que multiplie un complexe qui est en fait égal à la réponse fréquentielle du filtre. Cette réponse fréquentielle se calcule à partir de la réponse impulsionnelle en appliquant la transformée de Fourier à temps discrète. D'une façon générale, la relation entrée-sortie, Yn égale H de l'entrée, s'écrit dans le domaine fréquentiel Y chapeau de F, donc la transformée de Fourier à temps discrète de la sortie, qui est égale au produit de la réponse fréquentielle par la transformée de Fourier à temps discrète de l'entrée UN. Et on rappelle que la réponse fréquentielle est égale à la transformée de Fourier à temps discrète de la réponse impulsionnelle. La fonction de transfert est définie comme étant la transformée en Z de la réponse impulsionnelle, et de même, la relation entrée-sortie pour s'écrire sous la forme de la transformée en Z de la sortie est égale à la transformée en Z de la réponse impulsionnelle que multiplie la transformée en Z de l'entrée. Et justement, la transformée en Z de la réponse impulsionnelle s'appelle la fonction de transfert. Transparent 8. On distingue trois types de filtres. Les filtres autorégressifs, notés AR, les filtres Moving Average, notés MA, et les filtres ARMA, qui sont une combinaison des deux précédents. Alors en français, on parlera de filtres à réponse impulsionnelle infinie pour les filtres AR et ARMA, et de filtres à réponse impulsionnelle finie pour les filtres MA. Dans les filtres à réponse impulsionnelle finie, tous les pôles sont nuls. Ce qu'on appelle les pôles, ce sont les racines du polynôme qui se trouve au dénominateur de la fonction de transfert, lorsque justement cette fonction de transfert, ce qui est le cas en général, s'écrit comme un quotient d'un polynôme au numérateur de variable z et d'un polynôme au dénominateur de variable z. Donc les filtres à réponse impulsionnelle, les filtres MA sont des filtres à réponse impulsionnelle finie, c'est-à-dire que la réponse impulsionnelle est non nulle pour un petit nombre de valeurs, enfin un nombre fini de valeurs. C'est ce qu'on observe dans le graphique en haut à droite, où on voit une réponse optionnelle qui vaut delta n plus 2 delta n moins 1 plus delta n moins 2 et qui dont la fonction de tenseur s'écrit comme 1 plus z moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 plus 2z moins 1 plus z moins 2. Alors les filtres MA s'écrivent sous la forme leur relation entrée-sortie, s'écrit en général sous la forme d'un yn égale b0xn plus b1xn moins 1 plus un certain nombre de termes du passé, mais ce qui différencie les filtres MA des filtres AR et ARMA, c'est qu'en aucun cas la sortie ne dépend des sorties précédentes. Elle ne dépend que de l'entrée et des entrées précédentes. Elle ne dépend pas des sorties précédentes. Alors, les filtres autorégressifs ou filtres AR sont des filtres pour lesquels les zéros sont tous nuls. La fonction de transfert s'écrit donc comme une fraction de 1 sur un polynôme, enfin sur un terme, un polynôme en z moins 1 au dénominateur. Donc cette écriture 1 sur a0 plus 1 z moins 1 plus ap z moins p a plein de 0, puisque pour avoir la notion de 0, il faut écrire la fonction de transfert sous la forme d'un polynôme de variable z au numérateur et d'un polynôme de variable z au dénominateur. L'écriture, la relation entrée-sortie, s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des différentes sorties de l'instant présent et du passé, qui est égale à une entrée particulière. Un exemple de ce filtre est donné par la réponse optionnelle sur la courbe du milieu et la fonction de transfert du milieu. Voilà, donc les zéros sont tous nuls et les pôles existent et sont à un certain endroit et n'ont aucune raison a priori d'être nuls. Alors les filtres ARMA, ce sont les filtres qui ont à la fois un polynôme 2z-1 au numérateur et au dénominateur. Et la relation entrée-sortie s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des sorties est égale à une combinaison linéaire des entrées. C'est donc la forme la plus générale qu'on puisse avoir pour les filtres à temps discret linéaires à coefficient constant et rationnel. Donc on a un exemple avec la réponse impulsionnelle du bas et avec la troisième fonction de transfert. Alors ce qu'on peut constater, c'est que la position des pôles ne détermine pas l'ensemble de la réponse impulsionnelle, puisque entre le filtre AR et le filtre ARMA, on a les mêmes pôles, on a simplement les zéros qui ont été déplacés, et ça change quand même un petit peu la forme de la réponse impulsionnelle. Transparent 9, on peut écrire les relations entrée-sortie sous la forme d'un schéma. Alors l'équation de récurrence exprime l'entrée, la sortie SN en fonction de l'entrée et de la sortie aux instants passés. Typiquement, cette équation-là est un filtre AR puisque SN moins BSN moins 1 est égal à A fois EN, EN étant l'entrée. Ce filtre AR peut s'écrire sous la forme d'une boucle de rétroaction avec un opérateur, donc z-1, qui est un opérateur de retard. Donc si on lit le schéma de gauche vers la droite, on a e de n de t qui est d'abord multiplié par a, auquel on ajoute une quantité qui vient du haut, et cette quantité, on le verra après, vaut bsn-1. Donc on a aen plus bsn-1, et ensuite, quand on poursuit plus loin, ce aen plus bsn-1 donne sn, c'est la sortie. Ce sn est retardé par l'opérateur de z-1 et fournit le s de n-1 que l'on a utilisé au départ. Ainsi, on a une équivalence entre l'écriture sous la forme d'une équation sn égale aen plus bsn-1 et l'écriture sous la forme d'un schéma numérique. La transformée en z, h de z égale a sur 1 moins bz-1, se déduit en appliquant la transformée en z à l'équation qui est en haut. Donc la transformée en z de sn, c'est s de z. La transformée en z de aen, c'est ae de z. Et la transformée en z de bsn-1, c'est b fois z-1 transformée en z de sn. En effet, Le fait de retarder un signal d'un nombre fini d'instants revient à multiplier la transformation z de ce signal par z puissance moins d. Et en fait, l'opérateur, le complexe z moins 1, signifie retarder d'un pas de temps le signal. Et une fois qu'on a écrit s de z égale ae de z plus bz moins 1 s de z, il suffit de mettre les s de z à gauche. Dans ce cas-là, on obtient 1 plus bz moins 1 facteur de s de z égale ae de z, et il est facile d'en déduire que s de z égale a sur 1 moins bz moins 1 facteur de e de z, et sachant que e h de z, la fonction de transfert, c'est s de z divisé par e de z, on trouve la relation recherchée. Transparent 10. On peut généraliser ce qu'on a fait précédemment pour calculer la transformée en z à partir de la relation entrée-sortie. Plus généralement, et c'est le cas pour les filtres Arma, la relation entrée-sortie s'écrit comme une combinaison linéaire des sorties aux instants présents yn et passés yn moins 1, yn moins 2, etc., qui est égale à une combinaison linéaire des entrées à l'instant n et des entrées passées n moins 1, n moins 2, etc. Lorsqu'on applique la transformée en z, on remplace tous les yn moins p par des z puissance moins p, facteur de la transformée en z. On obtient donc un polynôme à gauche de y de z et un polynôme à gauche de x de z qui reprend tous les coefficients de la combinaison linéaire. En écrivant la fonction de transfert comme le quotient de la transformée en z de la sortie divisé par la transformée en z de l'entrée, c'est-à-dire y de z sur x de z, on peut écrire la fonction de transfert comme le quotient de deux polynômes en z moins 1. En remplaçant z par exponentielle de moins j de pi f te, on retrouve la transformée de Fourier à temps discret, c'est-à-dire la réponse fréquentielle du filtre. Maintenant, si on veut représenter la réponse fréquentielle et si on veut calculer les pôles et les zéros, il faut factoriser le polynôme au numérateur et au dénominateur. On sait, c'est un résultat mathématique, que n'importe quel polynôme de degré n a n racines complexes, éventuellement multiples, c'est-à-dire que la même racine peut compter plusieurs fois, mais il a toujours n racines et peut donc toujours s'écrire comme un produit de facteurs. Il reste qu'il faut le trouver et que ce n'est pas forcément facile de trouver les racines de ce polynôme-là. À partir du moment où on a trouvé les pôles et les zéros, il est facile de représenter la réponse fréquentielle. En effet, le module d'un produit de complexe est égal au produit des modules, et de même, l'argument d'un produit de complexe est égal à la somme des arguments des différents complexes. Une fois qu'on a trouvé les pôles et zéros et qu'on a écrit la fonction de transfert sous une forme factorisée, on peut appliquer la décomposition en éléments simples. Cette décomposition permet de faire apparaître la fonction de transfert comme une somme de fractions. Si les pôles sont de degrés multiples, alors les fractions ne sont pas forcément de degré 1, contrairement à ce que laisserait entendre l'écriture. Il faut faire attention que normalement la décomposition en éléments simples est définie pour des polynômes en z et non pas pour des polynômes en z moins 1. Et donc il y a des précautions à prendre quand on fait les calculs. À partir de cette écriture sous la forme d'une somme de fractions, il est assez facile de calculer la réponse impulsionnelle, parce que on peut deviner assez facilement la réponse impulsionnelle qui a cette fonction de transfert comme transformée en z. Dans le cas où c'est 1 sur 1 moins p0, p0 étant un complexe, puis fois z moins 1, la réponse impulsionnelle correspondante est égale à a0 p puissance n exponentielle de un complexe j de pi f0p fois nte. La démonstration de ce résultat provient de l'utilisation du fait que 1 plus x plus x2 plus x3 plus x puissance 4 plus jusqu'à l'infini est égal à 1 sur 1 moins x, et que ce résultat est valable pour tous les x complexes de modules strictement inférieurs à 1. Alors, la définition de la stabilité: un filtre est stable si l'ensemble de ses pôles est module strictement inférieur à 1, c'est-à-dire que si un filtre a un pôle à l'extérieur ou sur le cercle unité ou à l'extérieur du cercle unité, alors le filtre n'est pas stable. On définit aussi la notion de filtre à minimum de phase. Un filtre est un minimum de phase si l'ensemble de ses zéros est un module strictement inférieur à 1, si un zéro se trouve en dehors du cercle du disque unité ou sur le cercle unité, alors le filtre n'est pas un minimum de phase. Ce qu'on appelle l'ordre d'un filtre, c'est le nombre de pôles et le nombre de zéros, et en fait c'est le nombre le plus élevé s'il y a plus de pôles que de zéros. Ici, c'est un exemple de filtre AR d'ordre 1, yn moins 1, yn moins 1, c'est une équation de différence. La fonction de transfert est égale à 1 sur 1 moins a, z moins 1. Le module de la fonction de transfert peut se déduire, peut se calculer, puisque ici on a une expression 1 moins a, z moins 1, on remplace z par exponentielle de j de pi f te. On sépare la partie réelle de la partie imaginaire, donc ça nous donne 1 moins a cosinus de pi fte plus j sinus de pi fte. Et on sait que le module d'un complexe, c'est la racine carrée du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. En l'occurrence, la partie réelle, c'est 1 moins a cosinus de pi fte. Et la partie imaginaire, c'est a sinus de pi fte. Donc la partie réelle au carré, c'est égal à 1 moins 2a cosinus de pi fte plus a carré cos carré de pi fte. La partie imaginaire au carré, c'est un a carré sinus carré de pi fte. Et la somme du carré de la partie ré... de a carré cos carré de pi fte plus a carré sinus carré de pi fte est égal à a carré. Hein, tout simplement parce que cos carré θ plus sinus carré θ est égal à 1. Donc ça nous permet, c'est une technique générale qui permet de retrouver le module. Voilà. Pour trouver la phase, en fait, on utilise encore une décomposition en partie réelle et partie imaginaire de cette expression 1 moins a exponentielle de moins j de pi fte, et la phase est donnée par l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, avec quelques précautions sur le signe de cette quantité-là. Donc en haut, on a dessiné le filtre lorsque a est plus grand que 1, et en dessous lorsque a est plus petit que 1. Ce qu'on peut observer, c'est que la réponse fréquentielle à elle seule ne permet pas de savoir si le filtre est stable ou pas. Hein. Par contre, l'allure de la réponse impulsionnelle est effectivement très différente suivant qu'il est stable ou pas stable, il tend vers 0 quand il est stable dans cet exemple-là. En fait, la réponse impulsionnelle, c'est égal à a puissance n fois l'échelon, c'est-à-dire que c'est égal à a puissance n pour les n positifs ou nuls, et est égal à 0 pour les n strictement négatifs. Et quand a est plus grand que 1, a puissance n tend vers l'infini. Quand a est plus petit que 1, a puissance n tend vers 0. Suivant, le pôle est donné par z égale à a. Et le 0 se trouve en 0. Donc, quand a est plus petit que 1, le pôle est l'intérieur du disque unité. Quand a est égal à 1, le pôle est sur le cercle unité et ce n'est donc pas stable. Quand a est plus grand que 1, le pôle est à l'extérieur du disque unité et donc c'est instable. Alors, transparent 15. Ici, on s'intéresse à un arma, c'est-à-dire que l'équation est définie par une combinaison linéaire des sorties est égale à une combinaison linéaire des entrées. La fonction de transfert se déduit assez facilement en appliquant la transformée en z sur cette équation. On trouve 1 moins bz moins 1 sur 1 moins 1,5 de z moins 1, c'est en haut, au milieu. à partir de cette fonction de transfert, à partir du même calcul que ce qu'on a fait précédemment, il est facile de trouver le module de la fonction de transfert et de même la phase de la fonction de transfert. À partir d'une décomposition en éléments simples de la fonction de transfert, on peut aussi trouver la réponse impulsionnelle ou en mettant en entrée un Dirac, on va trouver aussi la réponse impulsionnelle. Donc, ce qu'on peut observer ici, c'est que le pôle, c'est z égale à 1,5. En effet, 1 moins 1,5 fois 1,5 à l'inverse, c'est-à-dire 1 moins 1,5 fois 2 est égal à 0. Donc le pôle est en 1,5 et c'est le 0 qui dépend de la valeur de b. Si b est plus petit que 1, alors le 0 est égal à b. Et si b est plus petit que 1, voilà. Donc suivant la valeur de b, et dans certains cas, le filtre est un minimum de phase, dans l'autre cas, il n'est pas un minimum de phase. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a effectivement une différence quand le filtre est un minimum de phase. Voilà. Quand le filtre est un minimum de phase, la réponse fréquentielle est relativement régulière autour de 0. Quand le filtre n'est pas un minimum de phase, la réponse fréquentielle, la phase de la réponse fréquentielle n'est pas régulière autour de 0. Transparent 18. Ce qu'on appelle un filtre à phase linéaire, c'est un filtre qui est l'association. C'est un filtre dont la réponse impulsionnelle est symétrique, ce qui est défini par h de n égale h de grand n moins petit n. On peut alors écrire le filtre comme étant la somme de termes de 0 à n sur 2 plus de termes de n sur 2 jusqu'à n. Et en regroupant les termes, en utilisant la symétrie, on fait apparaître une phase, enfin un retard particulier qu'on peut mettre en facteur. Et un ensemble de termes qui, eux, ne jouent pas sur la phase et qui correspondent à un filtre de réponse impulsionnelle pair et non causal. Donc, en résumé, on peut dire que lorsque la réponse impulsionnelle est symétrique, le filtre est à phase linéaire. Ici, c'est un exemple de réponse impulsionnelle. Donc, dans le premier de différentes réponses impulsionnelles, dans le premier exemple, la réponse impulsionnelle est un carré. Est un bloc, c'est un moyenneur sur 5 échantillons, sur 5 pas de temps. Il est symétrique et on observe que la dérivée de la phase de la réponse fréquentielle, c'est la courbe en pointillé, elle est nulle et donc le filtre est effectivement bien à la phase linéaire. Quand on, à la place de faire un bloc, donc dans le deuxième exemple, on fait une rampe, un demi-signal triangulaire, et bien on observe qu'au contraire, la dérivée de la phase n'est pas nulle et donc le filtre n'est pas à phase linéaire. De même pour le troisième exemple, qui est une succession de deux rampes, la dérivée de la phase n'est pas nulle et donc il s'agit d'un filtre qui n'est pas à phase linéaire. En revanche, lorsqu'on retourne la deuxième rampe, qu'on définit un vrai signal triangulaire, eh bien on obtient effectivement un filtre à phase linéaire. Donc le transparent 20 est l'ensemble des calculs qui ont été faits pour ça. Le transparent 21 donne le résumé des différentes relations que l'on peut avoir. Donc si on commence par lire en haut à gauche, la réponse impulsionnelle peut être déduite de l'équation de récurrence en haut à droite, qui est une relation entrée-sortie. Pour cela, il suffit de mettre en entrée un Dirac, c'est-à-dire de remplacer xn par un Dirac et de calculer yn associé, le yn qu'on aura trouvé sera la réponse impulsionnelle. À partir de cette réponse impulsionnelle, on peut calculer la fonction de transfert, condition d'appliquer la transformée en z. On peut calculer aussi la réponse fréquentielle à chapeau de f en appliquant la transformée de Fourier à temps discrète. À partir de la transformée en z, à partir de la fonction de transfert h de z, on peut retrouver aussi la transformée de Fourier à temps discrète à condition de remplacer z par exponentielle de j de pi FTE. Et puis, à partir de l'équation de récurrence, en mettant en entrée une exponentielle complexe exponentielle de j de pi fnte, on peut retrouver en sortie la fonction, on retrouve en sortie cette exponentielle complexe que multipliée à un certain complexe. Et justement, ce complexe, c'est la réponse fréquentielle, donc c'est une autre façon de trouver la réponse fréquentielle.